Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Alors je vous propose aujourd'hui de conclure ce chapitre sur l'époque moderne et découvrons un très très grand sculpteur français du XVIIIe siècle qui s'appelle Edme Bouchardon. Et on va découvrir en particulier une œuvre qui est un chef-d'œuvre mais qui n'a pas été compris du tout sur le moment. Il s'agit de l'amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule. Alors dans un premier temps, découvrons ce sculpteur dont vous avez sur la première diapositive les références, Edme Bouchardon, qui a été formé par son père Jean-Baptiste, qui est un modeste sculpteur provincial. À l'âge de 24 ans, il entre dans l'atelier de Guillaume Coustou, qui est un sculpteur extrêmement renommé, qui fait partie d'une dynastie, par ailleurs, hein, de très très grands sculpteurs. Donc il est à Paris, et dès 1723, Edme Bouchardon remporte le premier prix de sculpture, ce qui est déjà un signe de sa précocité, de son très grand talent. Ce prix qu'il remporte le conduit automatiquement à l'Académie de France à Rome, où là il est pensionnaire du roi, avec un jeune sculpteur qui s'appelle Lambert Sigisbert Adam, que je présenterai dans un instant pour montrer toute la différence qui existe entre Bouchardon et son ami, son parfait contemporain, Lambert Sigisbert Adam. Edme Bouchardon se passionne pour l'Antiquité classique et l'archéologie romaine. Il restera 9 ans en Italie, copiant des antiques tels le faune Barberini. Alors je vous présente cette antique, du moins la version, la réplique romaine qui se trouve à Munich, le faune Barberini, qui pour cette version-là que vous avez sur la deuxième diapositive, a été retouché par le grand sculpteur baroque Le Bernin au XVIIe siècle. Alors c'est une sculpture intéressante parce qu'elle n'est pas véritablement classique, elle appartient à un style un petit peu plus tardif, qui est le style hellénistique. Le style hellénistique renvoie à des personnalités comme Alexandre le Grand, par exemple. Alors on voit effectivement cette figure du faune Barberini qui adopte une position plutôt alanguie, et c'est justement cette position qui est très typique du style hellénistique. Un style que l'on a souvent qualifié de baroque, le style baroque hellénistique, celui qui triomphe, pourrait-on dire, au IIIe et au IIe siècle avant notre ère. Ce style semble avoir été inspiré par Praxitèle, qui déjà, au IVe siècle avant notre ère, façonnait ce type de personnages langoureux, parfois mélancoliques, des personnages qui vont séduire considérablement les artistes qui viendront après Praxitèle. Praxitèle est considéré plutôt comme un sculpteur classique, adoptant toutefois un canon un petit peu plus étiré que ses prédécesseurs du 5e siècle avant notre ère, tels Phidias ou encore Polyclète. Quoi qu'il en soit, les artistes hellénistiques vont reprendre ces modèles et les développer, et ça donne ce faune Barberini qui sera copié mais abondamment par les Romains. Donc c'est déjà un choix que Bouchardon a fait de sélectionner en particulier cette œuvre-là. Voici maintenant la copie qu'il en a laissée, qui est d'une virtuosité tout à fait incroyable, surtout quand on se rappelle que le sculpteur n'a pas 30 ans quand il fait cette copie, qui est un très très grand chef-d'œuvre. Il faut la remettre dans son contexte. Selon les règlements de l'Académie française de Rome, les sculpteurs devaient faire une copie d'une statue classique, entre guillemets, pour le roi. Ils étaient pensionnés par le roi, ils devaient travailler effectivement pour le roi pendant leur séjour romain. Bien que de style hellénistique, la sculpture en marbre du faune endormi a été très admirée par les connaisseurs et les artistes du XVIIIe siècle. Je parle bien entendu de la copie qu'en laisse Bouchardon. tout en préservant la beauté de l'original classique. Le fun endormi de Bouchardon est peut-être un petit peu plus naturaliste, peut-être même un peu plus sensuel, ce qui ne manque pas de s'adapter parfaitement à l'esprit du XVIIIe siècle, un esprit marqué par la légèreté de thèmes comme par exemple les fêtes galantes, introduits par Watteau, et puis donc également l'esprit qui est rocaille du XVIIIe siècle et qui a marqué d'ailleurs beaucoup le règne de Louis XV. Alors justement, en 1753, le roi Louis XV remettra cette copie que vous avez sous les yeux au marquis de Marigny, directeur des bâtiments du roi, pour ses jardins à Monceau. Mais revenons à l'époque où Bouchardon était en Italie, et là il réalise des bustes qui sont effectivement influencés par l'Antiquité, tel par exemple ce portrait du baron Philippe von Stocht. Stocht est un antiquaire prussien qui vivait à Rome et à Florence, et quand Bouchardon réalise en 1727 ce très beau buste, on peut le considérer, ou on l'a considéré comme, très justement, comme un des premiers bustes néoclassiques de l'art européen. Alors si on adhère à cette proposition, c'est vraiment une œuvre exceptionnelle, une œuvre remarquable, puisque en effet nous ne sommes qu'en 1727, c'est-à-dire à une époque où partout en Europe le baroque triomphe sous ses formes rococo ou encore rocaille. Le néoclassicisme quant à lui viendra plus tard dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et justement Bouchardon n'est pas du tout étranger à l'avènement d'un nouveau style qui sera donc le style néoclassique. On va le voir justement avec cet amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule. Insistons toujours sur cette époque où Bouchardon se trouve à Rome. Donc il copie des antiques, mais parallèlement, il ne peut ignorer la leçon du baroque romain, et en particulier de Gian Lorenzo Bernini. Le Bernin est pour n'importe lequel des sculpteurs donc une référence, un personnage qui est hors norme dans l'histoire universelle de la sculpture, donc il ne pouvait pas passer à côté de cet exemple. Donc il va emprunter le style du Bernin en réalisant le buste du cardinal de Polignac qui date de 1731, qui est au musée Bossuet à Meaux, et le buste du pape Clément XII que vous avez sur la cinquième diapositive. Un buste absolument magnifique, il date de 1730, c'est un marbre bien sûr, il a été très remarqué, notamment pour l'analyse psychologique, c'est-à-dire qu'en tant que portraitiste, Bouchardon a ce don de pénétration psychologique, il le restitue en notant tous les traits physionomiques du pape Clément XII. Et puis, on remarque aussi ce rendu absolument magnifique des tissus où jouent de subtils effets de lumière, comment aussi ce vêtement se froisse, et là on a un effet qui est digne des plus beaux portraits laissés par Le Bernin, par exemple le portrait de Scipion Borghese. Nous restons toujours à Rome avec Bouchardon. Cette inspiration baroque romaine est encore confirmée par ce très beau dessin que vous découvrez maintenant, un Saint Matthieu d'après Domenichino, qu'il réalise autour de 1724-25 et qui va montrer d'abord que c'est un exceptionnel dessinateur. Bouchardon a été remarqué très vite, très jeune, comme étant un dessinateur hors pair. D'une part, ensuite, si on s'attache à la composition, donc elle est réalisée d'après Domenichino, on s'aperçoit que la figure principale du Saint Matthieu est une figure qui reste fondamentalement michel-angelesque, qu'elle est empruntée à Michel-Ange, c'est-à-dire à ces personnages que l'on découvre sur la voûte du plafond de la Sixtine. Et si on s'attache à la composition de ce Saint Matthieu d'après Domenichino, on remarque que la figure du saint est michel-angelesque, emprunté très largement à ces personnages que l'on découvre sur la voûte de la chapelle Sixtine. On pense notamment à ces prophètes et même aux sibylles. Et effectivement, donc on s'aperçoit que la figure est contorsionnée, très contorsionnée, que la musculature est même hypertrophiée, et on observera comment saint Matthieu se tient, avec notamment cette jambe gauche qui s'appuie sur le genou de la jambe droite, et comment de son coude droit il repose le reste de son corps, sa tête, dans cette attitude qui est compliquée, qui est empruntée à des formules maniéristes, à des formules qui sont aussi, que l'on retrouvera aussi dans le monde baroque. Alors c'est une confirmation donc, que le baroque romain l'intéresse tout particulièrement à ce grand sculpteur qu'est Bouchardon. Cependant, il faut bien reconnaître que à Rome, c'est le classicisme qui le retiendra de ce long séjour italien. À la différence de ses contemporains les plus admirés, les Adam et les Slots. Si ces derniers s'épanouissaient dans le style rocaille, Bouchardon s'en détournait pour revenir à un idéal classique, inspirant un mouvement culturel qui allait l'emporter en Europe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc cet idéal classique, ce mouvement culturel, c'est, je l'ai dit, le néoclassicisme. À ce titre, il faut signaler que Charles-Nicolas Cochin, qui a vécu de 1715 à 1790, personnage très important, il était ordonnateur des Beaux-Arts sous la direction du marquis de Marigny, il était secrétaire historiographe de l'Académie royale, il admirait justement Bouchardon, mais considérablement, pour avoir, je cite, « amené le goût simple et noble de l'Antiquité ». Donc tout est là finalement dans le sculpteur Edme Bouchardon, c'est-à-dire cette orientation qu'il va prendre contre ses contemporains finalement, et orientation qui va s'imposer partout en Europe dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Donc il semble s'affirmer très vite, très tôt, Edme Bouchardon, comme un artiste charnière, un artiste clé, un artiste de transition. Et pour bien comprendre ce point, ben, je propose de voir une œuvre d'un des Slots. Donc j'ai choisi Paul Ambroise Slots, qui fait partie, mais c'est souvent le cas à cette époque, d'une dynastie de sculpteurs. Donc ainsi on connaît Sébastien Slots, qui est un artiste né à Anvers au XVIIe siècle, mais qui mourra à Paris en 1726. Vous avez Sébastien Antoine Slots, qui est un artiste né à Paris, au même titre que ses frères Paul Ambroise et Michel-Ange Slots, dont vous avez sur la 7e diapositive les références qui sont signalées. Alors là, je vous propose La Chute d'Icare. J'ai choisi une œuvre qui date de 1743. Elle est intéressante parce qu'elle correspond assez bien aux œuvres que je vous montre de Bouchardon, ou surtout à celle que je vais vous montrer, L'amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule. Donc La Chute d'Icare, c'est un sujet tourmenté, c'est un sujet violent, et c'est un sujet qui permet de jouer sur une expressivité très forte. Autrement dit, un sujet comme celui-ci, de la façon dont l'a traité Paul Ambroise Slots, conviendrait très bien à un sculpteur comme Le Bernin, voire à des sculpteurs plus anciens encore, à commencer bien sûr par Michel-Ange. Alors, je citais les Slots et je citais les Adam. Alors là aussi, c'est pareil, on a affaire à une grande dynastie de sculpteurs, les Adam, donc il y en a trois principaux, trois importants. Il y a Lambert Sigisbert, que connaissait très très bien Edme Bouchardon. Ce sont des artistes nancéens, dont vous avez là aussi les références sur la diapositive suivante. Donc sculpteur nancéen, Lambert Sigisbert a deux frères, Nicolas Sébastien et François Gaspard, et ils représentent tous les trois au XVIIIe siècle la tendance rocaille, et il faut encore insister sur le fait qu'ils étaient admirés pour cela. Alors là j'ai choisi de Nicolas Sébastien Adam un Prométhée enchaîné qui date de 1762, œuvre un petit peu tardive, mais je l'ai choisi exprès justement parce qu'à cette époque, 1762, nous sommes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, le baroque était de plus en plus critiqué. On revenait justement, suite à l'exemple de la sculpture de Bouchardon, on revenait vers des formes qui étaient plus simples, plus antiques, plus liées aussi ou plus proches de la nature, des sculptures naturalistes, quoi, en un mot. Enfin, s'opérait à cette époque un changement de goût, on allait vers le néoclassicisme. C'est bien qu'on pourrait dire de ce Prométhée enchaîné, qui est un pur chef-d'œuvre, hein, c'est une œuvre qui est absolument magnifique, que cependant, l'œuvre est un peu passéiste, elle est restée dans un goût qui est celui que j'évoquais, donc le goût de l'expressivité, le goût du baroque, le goût d'un sujet qui est, comme le précédent, un sujet violent qui provoque l'expressivité extrêmement puissante. Enfin, on retrouve avec cet exemple du Prométhée enchaîné de Nicolas-Sébastien Adam la puissance baroque d'un sculpteur comme Pierre Puget. Pierre Puget est un grand sculpteur du XVIIe siècle, il est français, ses œuvres étaient extrêmement appréciées à l'époque à laquelle nous sommes, et on pense en particulier au Milon de Crotone de Pierre Puget, ou le Persée et Andromède de Pierre Puget, qui sont deux œuvres magnifiques que l'on découvre au Louvre aujourd'hui. À l'évidence, Adam suit cette leçon de Pierre Puget, reste donc attaché à cette esthétique baroque. Alors voilà que Edme Bouchardon retourne en France. Nous sommes en 1732. Comme il revient de l'Académie de France à Rome, comme il a été pensionné par le roi, il va recevoir aussitôt plusieurs commandes royales. Bon, donc on pense notamment au groupe latéraux du bassin de Neptune à Versailles. C'est la diapositive suivante qui vous présente un de ces groupes latéraux. Il s'agit, ou du moins j'ai choisi, le Protée, qui reste une œuvre caractéristique du travail de notre Edme Bouchardon. Donc Protée, je vous rappelle très vite, qui est Protée dans la mythologie grecque, c'est une divinité marine, mentionnée très souvent par Homère, notamment dans l'Odyssée. Il est signalé comme étant le vieillard de la mer, le gardien des troupeaux, notamment les phoques de Poséidon sont gardés par Protée, mais il a par-dessus tout, et c'est ça qui intéresse les bâtiments du roi, qui ont demandé à Edme Bouchardon de traiter ce sujet. Protée est doté du don de prophétie et du pouvoir de se métamorphoser. Et c'est justement un sujet qui est parfaitement adapté au baroque. On sait par exemple que les métamorphoses d'Ovide ont connu un très grand succès au XVIIe siècle chez les peintres comme chez les sculpteurs. Et il est évident qu'à l'époque à laquelle nous sommes, dans ces années 1730, on reste encore bien sûr lecteur des métamorphoses d'Ovide, on apprécie, on demande aux artistes d'en donner des représentations. Et effectivement, si on regarde attentivement ce groupe qui est magnifique, c'est un groupe absolument splendide, on s'aperçoit que le Protée de Bouchardon relève finalement de formules qui sont plutôt baroques. La figure est très dynamique, expressive, la musculature à l'évidence est très ressortie. Remarquez aussi les effets de la chevelure de ce Protée, donc c'est-à-dire une chevelure épaisse, longue, de grosses mèches, qui semble se mêler d'ailleurs avec les algues ou la végétation marine qui enveloppe effectivement la figure. Enfin, donc une coquille. La coquille permet de jouer sur des formes qui sont des courbes, des creux, des espaces qui sont effectivement concaves, des volumes qui sont convexes, et puis surgissent de la coquille. Qui, littéralement baroque, on pourrait même parler d'une rocaille, surgissent des monstres marins qui accompagnent Protée, des figures fantastiques qui ne manquent pas de rappeler ce don qu'il avait de la métamorphose. Donc on a ici affaire à une commande royale, une commande extrêmement importante, une commande que va parfaitement donc assurer Edme Bouchardon, mais dans ce goût qui est le goût du moment, c'est-à-dire un goût clairement baroque. Là-dessus, il faut observer que Bouchardon obtient la charge de dessinateur de l'Académie des inscriptions en 1737. Il va exercer cette fonction jusqu'à sa mort. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est qu'on le considérait, et on l'a considéré très vite, très tôt, comme un dessinateur remarquable. Prenons l'exemple du graveur, libraire, historien d'art et marchand collectionneur d'estampes Pierre-Jean Mariette, qui a vécu de 1694 à 1774. Il a beaucoup écrit sur l'art de son temps et il considérait Edme Bouchardon comme un des plus grands dessinateurs de son temps. Ce que montrent, je crois, ces deux dessins sur la diapositive suivante, donc la tête d'une femme portant un foulard, le portrait d'un enfant tête légèrement inclinée vers la droite, c'est d'une finesse, d'un raffinement, d'une subtilité absolument sensationnelle. Il dessine selon cette technique à la sanguine qu'il a absolument maîtrisée. Donc ce talent qu'il a de dessinateur explique qu'il reçoive la charge de dessinateur de l'Académie des inscriptions dès 1737. Alors, ayant cette charge, étant reconnu comme le grand dessinateur, disons, au service du roi, il est capable de montrer une très grande diversité d'inspiration. Cette diversité l'amène à représenter aussi bien des sujets allégoriques que mythiques, fabuleux, ou alors ce sont des sujets empruntés à l'histoire ancienne, sans omettre des domaines comme les arts décoratifs, la rocaille précédente sur laquelle se mouvait notre Protée le montre, mais encore d'autres domaines comme la caricature et le monde animal. Alors il y a aussi, parmi les dessins de Edme Bouchardon, des dessins qui sont destinés à servir de modèle pour les estampes, pour la gravure. La plupart des dessins de Bouchardon étaient des œuvres indépendantes, mais certains de ses dessins, comme les Cris de Paris, étaient des modèles pour des estampes. Alors, vous avez ici un exemple, le dessinateur, donc c'est tiré des études dessinées dans le Bas du Peuple ou les Cris de Paris, et si vous ne voyez pas la référence au goût du moment, que l'on peut qualifier de rocaille, une fois de plus, on va signaler que c'est au même moment qu'un des plus grands artistes, un des plus grands peintres, rocaille, qui n'est autre que François Boucher, éditait ses Cris de Paris. Les Cris de Paris, chez Bouchardon ou encore François Boucher, et on pourra retrouver des dessins assez comparables chez Fragonard un petit peu plus tard, ces Cris de Paris sont dans l'esprit du temps, dans l'esprit peut-être un peu léger finalement du XVIIIe siècle. Enfin, donc pour évoquer encore ces dessins, je vous présente le dessin suivant, un homme debout avec les bras croisés, qui est un très beau dessin de 1738, comme vous le lisez. Bouchardon exposait des dessins qui n'avaient aucun rapport avec sa sculpture. Il les exposait notamment au Salon de Paris entre 1737 et 46, et ce dessin que je vous montre fait partie justement de ces belles œuvres graphiques qu'il montrait. C'est d'ailleurs quelque chose de très inhabituel à l'époque, surtout pour un sculpteur. C'est bien sa charge de dessinateur de l'Académie des inscriptions qui explique pourquoi il avait ce privilège de montrer quelques-uns de ses dessins au Salon de Paris. Bouchardon a diffusé comme cela bon nombre de ses œuvres, et grâce notamment à la collaboration qu'il entretenait avec le comte de Caylus. Le comte de Caylus, qui a vécu de 1692 à 1765, est un archéologue, entre guillemets bien sûr, c'est pas l'archéologie d'aujourd'hui, un antiquaire, un homme de lettres, un graveur français, et donc il appréciait tout particulièrement ses dessins de Bouchardon. Souvent effectivement ses dessins étaient par la suite gravés. Et justement on pourrait citer aussi la collaboration étroite de Bouchardon avec cette fois-ci un graveur professionnel, le comte de Caylus, qui est un grand intellectuel, un homme raffiné, savant, très savant, qui a un goût très sûr, n'était que graveur amateur, pourrait-on dire. Mais Étienne Fessard, était un graveur professionnel. Ces deux hommes, le comte de Caylus et Étienne Fessard, ont contribué à établir la réputation de Bouchardon, c'est-à-dire un dessinateur prolifique. Certains de ses dessins à la sanguine se hissent au niveau de la peinture historique, comme ce dessin d'un homme debout avec les bras croisés, un dessin qui ne manque pas d'annoncer David, le grand peintre David. Alors parallèlement, l'artiste recevait ou devait en tout cas produire des dessins pour des médailles. Alors j'insiste beaucoup, c'est de 1737 à 1762, l'année de sa mort, que Bouchardon occupe ce prestigieux poste de dessinateur de l'Académie des inscriptions et des belles-lettres. Donc une institution royale qui avait la double mission de faire progresser les connaissances sur l'Antiquité et l'histoire classique, de fournir des inscriptions à la gloire du roi. La tâche principale de Bouchardon était, dans ce cadre, de dessiner des médailles sur des idées développées par les académiciens. Certaines étaient distribuées annuellement aux membres des administrations royales, tandis que d'autres médailles commémoraient les événements majeurs du règne de Louis XV. À quoi correspond bien sûr ce dessin qui est un portrait de Louis XV de profil droit, très beau dessin à la sanguine qui date de 1738. Donc il y a bien sûr le format ovale de la médaille. Il est assez évident que ce portrait était fait pour devenir une médaille. Alors bon, il s'agit de montrer autre chose chez Edme Bouchardon, de le montrer comme sculpteur qui reçoit des commandes très, très différentes les unes des autres. Et c'est ainsi que pour l'abbé Languet de Gercy, il va réaliser un décor pour l'église Saint-Sulpice. Il donne les modèles de ces personnages qui constituent le décor. Il exécute en partie l'ensemble de ce décor. Il s'agit d'un collège de 8 apôtres avec le Christ appuyé sur la croix et la Vierge de Douleur. C'est en 1734 qu'il commence effectivement la réalisation de ces sculptures monumentales que vous pouvez découvrir sur la diapositive suivante, donc à gauche la flagellation du Christ, appuyée effectivement sur la croix. Donc à droite, c'est la Vierge des Douleurs, qui date de 1734-38, c'est l'époque à laquelle il s'attache à cette commande de l'abbé Languet de Gercy. Puis vous avez, toujours sur la même diapositive, la figure du Christ pour son morceau de réception à l'Académie. Ce morceau de réception date de 1745, je l'ai mis à proximité de la flagellation du Christ de Saint-Sulpice à Paris, il y a à peu près 10 ans d'écart entre les deux œuvres, pour montrer effectivement le parallèle. L'œuvre, la flagellation du Christ, avait sans doute reçu des témoignages très favorables, avait beaucoup plu, ce qui va expliquer le choix que fait ici Bouchardon de reprendre cette œuvre religieuse, cette œuvre sacrée, qui donc correspond parfaitement à un morceau de réception à l'Académie. C'est vu comme un sujet d'histoire, hein, c'est aussi noble, voire sans doute plus noble qu'un sujet d'histoire. Donc il en fait ce Christ tenant sa croix, qui est un marbre absolument magnifique que conserve aujourd'hui le Louvre. Donc c'est une façon de dire que cet artiste travaille pour les religieux, laisse des œuvres sacrées d'une certaine puissance, d'une certaine profondeur, d'une grande spiritualité. La Vierge des Douleurs, par exemple, est absolument magnifique. Elle est aussi très inspirée, hein, de quelques statues antiques. On pense notamment à ces Vénus qui étaient entièrement enveloppées, voilées, enveloppées. Nous en avions présenté une, je crois, à propos de la Vénus au miroir de Velázquez. Je vous renvoie par conséquent à cette référence, et ça ne manque pas de donner à cette Vierge de Douleur une allure qui peut être effectivement donc antiquisante. On apprécie aussi dans son Christ de la flagellation, ou du moins ce Christ qui donc se soutient ou se tient plutôt à sa croix, la simplicité de la composition. C'est simple extrêmement efficace. Donc on s'aperçoit que déjà à cette époque, il prend une orientation qui est celle qui avait été parfaitement signalée donc un petit peu plus tôt par les grands commentateurs de Bouchardon, ceux qu'il appréciait beaucoup, qui signalaient effectivement que Bouchardon travaillait avec ce souci de simplicité, avec ce rapport à l'antique qui est tout à fait flagrant dans beaucoup de ses œuvres. Et justement, une de ses œuvres les plus marquantes, c'est la fontaine de la rue de Grenelle, que vous découvrez sur la diapositive suivante. Alors, il va nous situer, juste après la commande précédente, entre 1739 et 1745. L'œuvre est importante, très importante, puisque c'est une commande de la ville de Paris. C'est d'abord une imposante architecture de temple antique dont vous voyez au moins sur la photo se dessiner à l'arrière-plan du groupe sculpté des colonnes cannelées. Bon, donc temple antique avec pavillon à fronton, vous pouvez l'imaginer. Le fronton est soutenu par les colonnes d'ordre ionique. On n'a pas choisi ici un ordre corinthien. Et cet ensemble, ce décor à l'antique, ce temple finalement, qui est une fontaine des quatre saisons, est orné de statues en marbre absolument magnifiques, de Bouchardon, donc une allégorie de la ville de Paris qui tient assise au centre de la composition, flanquée de la Seine et de la Marne. Donc tout est sculpté ici en pierre, en tout cas pour la Seine et la Marne, ainsi que les quatre génies adolescents dans des niches représentant les saisons. Une architecture de temple antique avec pavillon à fronton, colonnes ioniques, l'ensemble orné de statues en marbre, ce sont les allégories de la ville de Paris flanquée de la Seine et de la Marne. La ville de Paris est assise, donc majestueuse, flanquée de ces deux allégories qui sont couchées quant à elles sur des cruches qui déversent de l'eau. La formule est antique et les deux figures se détachent sur une faune et une flore plutôt fluviale. À cela s'ajoutent des sculptures de génies, des adolescents dans des niches qui représentent les saisons, sculptées cette fois-ci en pierre, et enfin des bas-reliefs qui vont représenter des jeux d'enfants également en pierre. L'ouvrage, à la composition plutôt calme et rigoureuse, utilise des poses et des drapés à l'antique, s'annonce nettement le néoclassicisme. On est sidéré par cette figure de la ville de Paris qui est majestueuse, d'une dignité absolument remarquable et qui semble trancher très nettement donc par rapport aux œuvres que j'ai pu vous présenter ou que j'ai pu évoquer des Slots ou encore des Adam. Donc je vais vous parler de ces bas-reliefs représentant des jeux d'enfants en pierre. Voici donc un exemple sur la diapositive suivante. J'insiste beaucoup sur les bas-reliefs qui décorent la fontaine des quatre saisons de Bouchardon qui se trouve rue de Grenelle à Paris. Donc on s'aperçoit ici que l'artiste est un très fin connaisseur de la grande tradition de la sculpture qui nous ramènerait un exemple français de la Renaissance qui est extrêmement célèbre. En effet, c'est la référence au relief de Jean Goujon, le grand sculpteur de la Renaissance française, qui réalisait quant à lui la fontaine des Innocents à Paris, une fontaine qui est datée de 1549, et on se souvient de ces reliefs du soubassement de la fontaine en question, qui représentent des figures allégoriques, des poutis qui sont très proches de ceux que vous voyez ici sculptés par Bouchardon. On marquera l'intérêt qu'il a porté à ces corps potelés, ainsi qu'à la nature, que ce soit les épis de blé qui évoquent bien sûr la prospérité, le lapin. Donc il y a beaucoup de détails qui sont là pour évoquer la richesse, la prospérité, tout ce qui est amené par l'eau salvatrice, l'eau bienfaitrice de la fontaine en question. Et voici un deuxième exemple, un deuxième bas-relief. Celui-ci, on peut l'appeler les enfants tenant des colombes et se couronnant de fleurs. C'est une allégorie du printemps. C'est le Metropolitan Museum of Art de New York qui possède ce bas-relief de Bouchardon, qui fait donc partie là aussi de la fameuse fontaine des quatre saisons. Justement, donc là vous avez l'allégorie du printemps, et c'est encore effectivement les grandes qualités de Bouchardon que l'on relève ici à travers les corps des poutis ou des enfants qui se détachent sur une nature qui est sculptée dans un relief beaucoup moins épais que le corps des poutis. Et c'est ainsi que l'artiste arrive à donner une impression de profondeur, ce qui est toujours très très difficile dans l'art du bas-relief. Donc il fait ainsi une sorte de contraste, il opère un contraste entre les enfants en question, leur corps, les têtes qui sont extrêmement saillantes par rapport au bas-relief, et la nature qui est extrêmement riche, faite de guirlandes de fleurs, de colombes, on l'a dit. Donc c'est une prouesse technique, c'est la preuve ici, le bas-relief, quoi qu'il en soit, est toujours la preuve, donne la preuve que le sculpteur est un grand sculpteur. Les sculpteurs peut-être un peu moyens n'osent pas faire des bas-reliefs qui jouent comme ça sur des gradations d'épaisseur. Et du même coup, cette allégorie du printemps, ces enfants que l'on voit ici, ne manquent pas d'être l'écho des tribunes des chantres, les fameuses cantoria de Luca della Robbia, ainsi que de Donatello, ces cantoria que l'on découvre au Museo dell'Opera del Duomo à Florence. C'est le style de la grâce qui s'imposait chez ces artistes au XVe siècle, ce que les Italiens appellent la morbidezza, et semble effectivement dans la douceur des volumes des corps des enfants ou leurs visages souriants pour certains. Donc il semble effectivement que l'on retrouve cette grande tradition de la sculpture de la Renaissance florentine, du Quattrocento, revue par Jean Goujon, et on arrive maintenant à ces bas-reliefs de Bouchardon. Tout ça pour dire qu'il était un grand connaisseur de la tradition de la sculpture. Alors tout au long de sa carrière, Bouchardon a élaboré de nombreuses compositions, et notamment des compositions pour des monuments funéraires. Alors pour ces compositions, ces dernières compositions, il faut préciser qu'elles sont connues essentiellement par des dessins, les dessins de Bouchardon, des commandes prestigieuses telles que les monuments au pape Clément XI ou au cardinal de Fleury, que vous avez justement ici sur la diapositive suivante. Le cardinal Fleury meurt dans les bras de la religion. C'est l'exemplaire en cire de Bouchardon de 1745. Alors, effectivement, ces commandes prestigieuses ont été abandonnées pour la plupart, et les quelques tombeaux qu'il a exécutés n'existent plus depuis la Révolution française. Quoi qu'il en soit, ça permet de dire que Bouchardon a été initié à l'art religieux. D'ailleurs, il l'a été très tôt, par son père Jean-Baptiste que j'évoquais tout à l'heure. Jean-Baptiste, de son côté, produisait des retables et des meubles d'église en Champagne et en Bourgogne. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours eu valeur d'exemple dans le travail de Bouchardon, que l'on retrouve donc à travers ces commandes, que l'on ne peut plus qu'apprécier à travers des dessins, essentiellement, ou des exemplaires en cire, comme vous l'avez sous les yeux. Alors justement, une de ces commandes que l'on ne peut plus apprécier est une des plus célèbres de Bouchardon, que reçoit Bouchardon. C'est d'ailleurs la dernière grande commande de Bouchardon, une statue équestre monumentale en l'honneur de Louis XV, qui représentait le monarque à cheval, vêtu d'un costume classique, couronné de feuilles de laurier, tandis que dans sa main droite, il tenait le bâton de commandement reposant sur sa cuisse, ce que montre très bien l'étude que vous avez sous les yeux pour la statue équestre de Louis XV, une très belle étude à la Sanguine qui est au Louvre aujourd'hui. Alors bon, on peut en dire deux mots, parce que c'est quand même une commande prodigieuse que reçoit ici Bouchardon. L'œuvre est commencée en 1748, c'est un projet plutôt exigeant qui a pris plusieurs années, Après de nombreux dessins préparatoires, Bouchardon termine un modèle de plâtre à grande échelle en 1757. La fonte à la cire perdue en un seul jet, c'est d'une exceptionnelle prouesse technique quand on imagine effectivement que la statue équestre en bronze était grandeur nature. Bon, de la fondre à la cire perdue en un seul jet, c'est vraiment exceptionnel. Cette fonte, donc, a lieu en 1758. La statue a finalement été installée en 1763, parce que Bouchardon y revient sans cesse, il veut quelque chose de parfait, bon, donc installée plus tardivement. Donc on remarquera à ce propos que 1763, c'est quelques mois après la mort de Bouchardon. C'est sur la place Louis XV, autrement dit l'actuelle place de la Concorde à Paris, que se dressait ce monument, cette statue équestre en bronze, tout à fait impressionnante. Inutile de dire que moins de 30 ans plus tard, en 1792, la statue est détruite pendant la Révolution française. Et un seul fragment a survécu, vous l'avez justement sur la photo, c'est la main droite de Louis XV, en bronze. C'est le seul témoignage que l'on a avec des études saisissantes sur les chevaux. C'est saisissant de vie, ces études, et on a enfin un traité publié par Bouchardon lui-même sur le processus de couler, parce qu'il avait conscience, bien sûr, que c'était une prouesse technique qu'il avait opérée, c'est-à-dire cette fonte en un seul jet. Fondamentalement, la statue équestre dérive du Marc Aurèle romain, mais toutes les grandes statues équestres, celles de Donatello, celle de Verrocchio et celles qui suivront après, sont de près ou de loin dérivées du Marc Aurèle romain, qui est sur la place du Capitole à Rome, enfin l'original au musée du Capitole. Le sculpteur, quoi qu'il en soit, a été unanimement loué par ses contemporains. Diderot, par exemple, lui consacre un texte. Il le considérait comme un des deux premiers sculpteurs de la nation, l'autre étant Pigalle. Et alors justement, ce Diderot n'est pas clair avec lui-même et avec ses avis qu'il donne sur l'art, sur les styles, sur les artistes. Donc il consacre un texte à Bouchardon, il le loue littéralement, mais il n'en fait pas le premier sculpteur de la nation. Donc c'est sans doute très légitime de considérer Pigalle comme étant le premier sculpteur de la nation. Seulement, ils ne sont pas tout à fait la même génération, quand même, Pigalle et Bouchardon. Ensuite, donc il faut rappeler que Diderot a vertement critiqué le chef-d'œuvre de Bouchardon. Le chef-d'œuvre absolu de Bouchardon, c'est l'amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule. Et ça, l'encyclopédiste n'a manifestement pas compris en son temps cette œuvre de Bouchardon. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, à ne pas l'avoir comprise. Alors il est temps de présenter ce chef-d'œuvre de Bouchardon. Vous avez ici toutes les références, l'amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule, 1750, on va revenir sur l'élaboration de cette œuvre-là, c'est une statue en marbre d'1,73 m de haut, c'est-à-dire que déjà l'amour en question adopte une taille qui est vraisemblable, qui est celle d'un homme. Il y a une inscription sur le baudrier du Carquois que vous pouvez lire sur la diapositive par Edme Bouchardon de Chaumont en Bassigny, fait en 1750. Et c'est au Louvre, bien sûr, que l'on découvre ce chef-d'œuvre. Alors l'amour, déjà adolescent, a dérobé les armes de Mars et la massue d'Hercule. Fier d'avoir désarmé ses deux divinités redoutables, il rit malignement et se taille donc un arc dans la massue dont il éprouve l'élasticité. On voit sur le bouclier de Mars la peau de lion de Némée qui appartient à Hercule. Voilà pour présenter les éléments principaux de cette œuvre-là. Dès le salon de 1739, Bouchardon expose un modèle en terre cuite, dont la réalisation est commandée en 1740 par Philibert Horry. Horry était le directeur des bâtiments du roi. Accaparé par la fontaine de Grenelle, son travail à Bouchardon ne débute qu'en 1745. Le sculpteur multiplie les études sur le modèle vivant, il donne une première esquisse en terre, un grand nombre de dessins, je vais en présenter quelques-uns, il expose le modèle en plâtre au salon de 1746, et enfin, le travail du marbre l'absorbe de juillet 1747 à mai 1750. Donc ces dates, cette chronologie montre que l'élaboration d'une œuvre comme celle-ci, de dimension normale, on va dire, l'élaboration peut être extrêmement longue. D'une part, parce qu'ensuite le travail du marbre lui-même peut être aussi considérable. Je redonne les dates, de juillet 1747 à mai 1750. C'est extrêmement long, il faut l'expliquer. C'est que Bouchardon a exécuté lui-même les travaux de ponçage et de polissage qui sont généralement laissés aux aides, aux collaborateurs, aux assistants du maître, ce qui est bien sûr Bouchardon, il est le maître, dans son atelier. Bon, mais on l'a compris, en plus d'être précoce, c'est quelqu'un qui est extrêmement soucieux et méticuleux des moindres détails. La statue de Louis XV que j'évoquais le montrait, ou le montrera, puisqu'elle est un petit peu plus tardive que l'œuvre que vous avez sous les yeux. Alors quand il achève en 1750 cette œuvre-là, qu'il signe, comme vous l'avez sur la diapositive, le sculpteur réclame une rétribution à la hauteur des soins apportés et il obtient la somme, exorbitante pour un sculpteur, de 21 000 livres. C'est exorbitant pour un sculpteur. Le sculpteur au XVIIIe siècle est encore taxé de roturier. Le peintre est peut-être déjà au-dessus de cet état de roture. L'architecte a dépassé bien sûr cet état depuis très très longtemps. L'architecte est extrêmement considéré. Pensez à Jules Ardouin Mansart à Versailles ou aux Invalides par exemple. C'est un architecte qui est extrêmement considéré. Le sculpteur beaucoup moins, donc c'est vraiment à signaler la somme qu'il obtient. Alors c'est d'autant plus contrastant que l'œuvre n'a pas plu du tout à ceux qui l'ont vu sur le vif, sur le moment, c'est-à-dire autour de 1750. Je vais y revenir. Alors avant cela, on va préciser que le musée de Besançon conserve 4 dessins à la sanguine exécutés en Italie par Bouchardon qui montrent diverses vues d'une statue antique que l'on peut présenter comme l'amour tendant son arc. Donc vous l'avez sur la diapositive suivante, du moins, donc une œuvre romaine du IIe siècle de notre ère, d'après, peut-être pas, on ne sait pas, un original du grand sculpteur Lysippe, le grand sculpteur du IVe siècle avant notre ère, qui était grec. Donc Bouchardon connaissait cette œuvre antique, puisqu'on a ses dessins à la sanguine qu'il a réalisé en Italie. Il connaissait cet amour tendant son arc. C'est là, incontestablement, une première source qui a inspiré directement notre sculpteur Edme Bouchardon. L'amour est représenté sous les traits d'un enfant ailé tenant l'arc. Le carquois est à ses pieds. Ce type d'éros arché est connu par une quarantaine de répliques antiques, d'une hauteur généralement de 1,20 m à peu près, et connu aussi par quelques copies plus réduites, comme celle-ci, celle qui est présentée au Louvre, et qui provient d'ailleurs de l'ancienne collection borghèse que l'État achète en 1807, d'où sa présence au Louvre aujourd'hui. Donc je le disais, c'est peut-être le souvenir de l'éros créé entre 338 et 335 avant notre ère par le très grand sculpteur grec Lysippe pour le sanctuaire de Thespie qui se trouve en Béotie, c'est-à-dire en Grèce centrale. Inutile de préciser que l'original en bronze a été perdu depuis très très longtemps. Cependant, cet original en bronze est vu et mentionné par Pausanias. Donc il a existé, et c'est sans doute effectivement sur ce modèle qu'on a fait les copies, et c'est donc la source, ou une première source, d'inspiration pour Bouchardon. Voyons la deuxième source d'inspiration de Bouchardon. L'autre source, c'est un tableau de la Renaissance maniériste que l'on doit à un très très grand artiste de Parme qui s'appelle Parmesan, dont vous avez les références sur la diapositive suivante, Francesco Mazzola, il Parmigiano, donc dit Parmesan, qui est un artiste qui n'a pas vécu longtemps, mais qui a laissé des œuvres emblématiques du maniérisme du XVIe siècle. Il a vécu de 1503 à 1540. Alors, le tableau du Parmesan montre un amour se taillant un arc. L'œuvre est au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Donc, on sait qu'une copie, donnée à Corrège au XVIIIe siècle, mais sans certitude, on ne sait pas si ce qu'il en est de cette copie. Enfin, il y avait une copie qui se trouvait à Paris, dans la galerie du duc d'Orléans, dès le début des années 1720. Je le précise parce qu'on ne sait pas si Bouchardon a vu le tableau du Parmesan. Pas plus que cette copie qui était alors attribuée à Corrège. Peut-être que Bouchardon ne connaissait que l'estampe faite d'après la peinture de Parmesan. C'est l'estampe que vous voyez sur la diapositive à droite. Une estampe que l'on doit au graveur flamand Franciscus van der Steen, réalisée dès 1660, et comme c'est une gravure, donc d'après Parmesan, on peut imaginer qu'elle était diffusée un peu partout, et on peut très bien imaginer que Bouchardon a plutôt connu la gravure de van der Steen que le tableau lui-même, ou la copie du tableau attribué à Corrège. Quoi qu'il en soit, c'est incontestablement une source d'inspiration de Bouchardon. Alors arrêtons-nous quand même sur ce tableau intrigant de Parmesan. Comme ses contemporains, je pense à Pontormo, à Bronzino, à Lotto. Parmesan s'est emparé du thème de Cupidon, nourri de la pensée platonicienne. Dès l'époque hellénistique, puisque le motif, je l'ai dit, viendrait de Lysippe, Cupidon est doté d'un arc et d'un carquois avec des flèches. Le thème est celui d'Eros, dépouillant Héraclès de ses armes, c'est-à-dire un Eros qui dompte la force. Le triomphe de l'amour sur le monde renvoie au thème de l'Omnia Vincit Amor de Virgile, c'est tiré des églogues de Virgile. Caravage en a laissé un très très beau tableau à ce propos. Enfin, l'amour vainc tout. Et on apprend qu'il existe plusieurs amours. Donc ainsi, ce commentaire que je fais prend le relais finalement du commentaire à propos de la Vénus au miroir de Velázquez. On va le présenter différemment. On va rappeler ce que disait Cicéron. Dans la nature des dieux, Cicéron explique, je le cite, « La première Vénus est fille de ciel et de jour. Nous avons vu son temple à Élis. La deuxième fut engendrée par l'écume. D'elle et de Mercure, suivant la tradition, naquit le deuxième Cupidon. La troisième, entre parenthèses, Vénus, est fille de Jupiter et de Dionée. Elle épousa Vulcain, mais on dit que de son union avec Mars naquit Antéros. La quatrième, conçue par Syrie et Chypre, porte le nom d'Astarté, et suivant la tradition, elle épousa Adonis. Donc il y a plusieurs Vénus. Il y a plusieurs Vénus, et du même coup, il y a plusieurs Cupidons, il y a plusieurs Eros. Dans ses attributs et symboles dans l'art profane, dictionnaire d'un langage perdu, 1450-1600, Guy de Tervaren, qui est un très très grand historien d'art du XXe siècle, résume la pensée de Cicéron, donc les propos que je viens de lire à l'instant. Il précise, concernant ces deux figures, Eros et Antéros. Et voici ce que dit Guy de Tervaren. Issus de deux Vénus différentes, ils inspirent aux hommes l'un des actions vertueuses, l'autre des actions vulgaires. Pour simplifier, il y a donc deux Vénus, au moins deux Vénus. Une Vénus céleste qui est née d'Uranos, qui ne peut inspirer aux hommes que des actions vertueuses ou célestes. À cette Vénus correspond Eros. Et il existe une autre Vénus, beaucoup plus humaine, beaucoup plus vulgaire, née de Jupiter et de Dionée, et le Cupidon qui correspond à cette deuxième Vénus ne peut qu'inspirer des actions vulgaires. Bon, là on retrouve le grand motif platonicien, l'amour sacré et l'amour profane, tiré du Banquet de Platon, commenté entre autres par Plotin, le néoplatonicien, et Marcille Fissin, le prêtre de la Renaissance du XVe siècle, qui appartenait à l'Académie platonicienne de Florence, du temps notamment des Médicis. Donc ce motif a été abondamment illustré en Italie sous la Renaissance, et finalement, que fait Parmesan ? Il en donne une illustration. Mais voilà, ça n'aura échappé à personne. Dans cette œuvre de Parmesan, il y a trois Cupidon. En arrière-plan, à travers les jambes du Cupidon adolescent, ou du moins plus grand, on voit effectivement les deux Eros que j'évoquais à l'instant, à travers le commentaire de Guy de Tervaren, c'est-à-dire Eros et Antéros. Antéros, à ce propos, pince le petit Eros, qui ira se plaindre et pleurer dans le giron de sa maman, c'est-à-dire Vénus. Bon, donc ainsi on a bien identifié Eros et Antéros dans le tableau de Parmesan. Reste ce Eros plus âgé, adolescent, avec des ailes absolument magnifiques, qui est en train de se tailler un arc dans la massue d'Hercule, posant son pied sur des livres, ce qui renvoie effectivement à l'Omnia Vincit Amor de Virgile, l'amour vainc tout. On a ici l'idée d'une vanitas à ce propos. Alors il faut l'identifier, ce Cupidon, ce troisième Cupidon. Bon, donc ce Cupidon qui se taille un arc dans la massue d'Hercule, c'est en fait le premier. Le premier dont ne parle pas Cicéron, parce que Cicéron dans son texte passe directement au deuxième, ça ne nous a pas échappé. Donc naquit le deuxième Cupidon et le premier. Il n'en parle pas. Donc c'est justement celui que l'on a sous les yeux. Donc il s'agit d'un Eros particulier, c'est Eros Phanès, qu'on appelle aussi Métis, qu'on appelle aussi Éric et Païos, qu'on appelle encore Protogonos Phaéton. Il est le plus important de tous les dieux, du moins pour les orphiques et pour les néoplatoniciens. Deux mots sur cet Eros Phanès. La nuit, aux ailes noires, dépose un œuf d'argent dans le sein de l'obscurité, nous dit le mythe orphique. Eros, que certains nomment Phanès, ce qui veut dire qui révèle, sort de cet œuf et met en marche l'univers. Eros avait des ailes, deux sexes et quatre têtes, et parfois sifflait comme un serpent ou bêlait comme un bélier. On a des représentations antiques de cet Eros Phanès tout à fait magistral. À ce propos, il est intéressant de remarquer la description qu'on en fait. Il a des ailes et il a deux sexes, ce qui pourrait très bien correspondre au petit Eros du tableau de Velázquez que l'on commentait, c'est-à-dire la Vénus au miroir. La nuit le nommait Éric et Païos, c'est-à-dire qui se nourrit de bruyère. Et Protogénos, le premier à faire briller. Phaéton vivait avec lui dans une caverne et se manifestait sous trois aspects, nuit, ordre et justice. Devant cette caverne se tenait assise l'inévitable mère Réa. Frappant sur un tambour de bronze, elle contraignait l'homme à prêter attention aux oracles de la déesse. Phanès créa la terre, le ciel, le soleil et la lune, mais c'était la triple déesse qui gouvernait le monde jusqu'au moment où son sceptre passa aux mains d'Uranos. Voilà le vieux mythe orphique, ce Cupidon qui tout d'un coup est très très antérieur à tous les dieux du panthéon grec. Il est donc le premier à faire briller. Il est celui qui révèle, c'est celui qui a créé toute chose. Bon, alors une fois qu'on a identifié donc cette Eros, on revient à notre amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule de Bouchardon. Résumons-nous. Bouchardon conçoit une œuvre qui concilie antiquité et renaissance. Antiquité, c'est l'antique de Lysippe. Renaissance, c'est le tableau de Parmesan. Il emprunte à l'antique les grandes ailes et le motif de l'examen de l'arc. Il s'inspire du tableau de Parmesan. Sa figure en possède la grâce, mais dépasse le modèle par son mouvement tournoyant. Une longue spirale anime le corps de l'adolescent qui se retourne, mais avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de retenue toutefois. C'est-à-dire que ce mouvement tournoyant n'a rien à voir, dans ce cas, avec ces spirales extrêmement dynamiques que l'on retrouve souvent dans les compositions baroques, peintures ou sculptures. La terrasse ronde sur laquelle est monté le Cupidon de Bouchardon, la disposition d'objets en courbe, corde, lanière du fourreau, queue du lion, accentue l'effet. La sculpture invite à tourner autour, sans doute parce qu'elle était destinée à figurer au centre du salon d'Hercule à Versailles. Je vais y revenir dans un instant. Avant cela, découvrons les dessins que Bouchardon a fait, donc en préparation de sa statue. En effet, Bouchardon va parallèlement étudier sa composition d'après le modèle vivant. Je le disais tout à l'heure, mais là il faut beaucoup insister là-dessus maintenant. Plus précisément, il existe au Louvre 9 dessins à la sanguine provenant de l'atelier de l'artiste, exécutés d'après un seul modèle vivant, étudiés selon 9 points de vue. Le modèle en question est un adolescent. Et ces dessins sont d'une vérité naturaliste absolument déconcertante. Enfin, déconcertante pour un esprit d'époque, pour un esprit des Lumières. Donc vous avez là quelques-uns de ces dessins magnifiques qui confirment bien que Bouchardon était un dessinateur hors pair, qu'il était soucieux d'exactitude naturaliste, d'observation scrupuleuse. Il est extrêmement méticuleux pour cela. Donc c'est un très très grand dessinateur qui va noter dans les moindres détails le corps de son modèle adolescent. Par exemple, remarquez les quelques disproportions de ce corps qui n'est pas encore tout à fait formé. Remarquez de dos comment ce modèle présente des fesses qui sont assez particulières, qui ne sont pas celles du héros antique, comme on a pu le voir par exemple à travers les guerriers de Riace, ou les épaules, ou le visage, ou les pieds de ce modèle. Donc vous avez plusieurs possibilités d'apprécier ce modèle, de dos, de face, donc c'est tout à fait caractéristique du travail de Bouchardon, et ses dessins permettent de montrer et de dire ce qui dérangeait ses contemporains. Ce qui a dérangé ses contemporains, c'est le rendu vériste d'un corps d'adolescent qui n'est pas encore tout à fait formé. Donc on le voit sur les dessins, mais il le restitue d'une façon remarquable dans sa statue. Donc voyons cette statue sous d'autres angles. Bon, c'est la diapositive qui suit. On revient à la statue de Bouchardon et on s'aperçoit que l'œuvre, par son refus de complète idéalisation, il n'y a aucune idéalisation dans ce corps de l'amour, et son souci de reproduire les proportions du modèle vivant, déconcerte la cour. Voltaire s'interroge sur l'idée de l'amour déguisé en garçon charpentier, dit-il. On va le citer. « Pensez-vous, dit Voltaire, que l'amour faisant tomber des copeaux à ses pieds, à coups de ciseaux, soit un objet bien agréable? De plus, en voyant une partie de cet arc qui sort de la massue, devinera-t-on que c'est l'arc de l'amour? Il y a longtemps qu'on a peint l'amour jouant avec les armes de Mars, et cela est en effet pittoresque, mais j'ai peur que la pensée de Bouchardon ne soit qu'ingénieuse. » On retiendra donc les deux mots qui font mal avec Voltaire, hein, pittoresque et ingénieuse. Diderot, de son côté, renchérit. « Il me semble, dit Diderot, qu'il faut bien du temps à un enfant pour mettre en arc l'énorme solive qui armait la main d'Hercule. Cette idée choque mon imagination, je n'aime pas l'amour si longtemps à ce travail manuel. » C'est un commentaire qui est radical. Il y a parfois chez l'encyclopédiste, à propos du baroque, à propos de tel ou tel artiste, tel ou tel style, des avis qui sont péremptoires et qui sont tellement radicaux pour certains qu'ils tombent dans le ridicule total. Plusieurs critiques trouvent le choix du modèle, c'est-à-dire un garçon des rues. C'est pour ça que je me suis permis d'évoquer tout à l'heure les cris de Paris. Un garçon bien plébéien, que Bouchardon aurait ramené des berges de la Seine. Ça rappelle les commentaires qu'on a pu faire à propos des modèles de Caravage, et donc le réalisme de Caravage. Et donc pour certains critiques, c'est incompatible avec la dignité de l'éros antique. Monsieur Bouchardon, est-ce qu'on peut appeler un très grand sculpteur, peut-être égal au meilleur grec, et fort supérieur aux Romains? Il imite le bel antique, et surtout la nature, mais quelquefois, il l'imite peut-être trop exactement et ne l'embellit pas assez. Ça, c'est un commentaire de Bachaumont. La réception publique du marbre présenté à Versailles n'a pas été positive. Selon une lettre de Marigny datée de 1752, je cite, « Le roi ne la veut absolument pas dans le salon d'Hercule. » Et il faut dire que l'installation de l'amour de Bouchardon sous le plafond de François le Moine, représentant l'apothéose d'Hercule, ne semblait pas heureuse. Alors voyons ce plafond, le plafond est magnifique. Le plafond est un très très grand chef-d'œuvre de la peinture française du XVIIIe siècle. Donc vous l'avez sous les yeux, l'apothéose d'Hercule par François le Moine, salon d'Hercule à Versailles, un plafond dont Voltaire disait, je le cite, « Il n'y a pas en Europe de plus vaste ouvrage de peinture que le plafond de le Moine, et je ne sais s'il y en a de plus beau. » Donc ainsi vous avez l'avis de Voltaire concernant l'œuvre de Bouchardon et l'avis de Voltaire à propos du plafond de Le Moine. S'appuyant sur l'analogie traditionnelle en Hercule, entre Hercule et le souverain, ça c'est une analogie que vous retrouvez partout dans toutes les cours, pensez, je ne sais pas, donc à Rodolphe II, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, dont la cour était à Prague. Donc si on suit effectivement cette analogie entre Hercule et le souverain Bourbon, c'est-à-dire Louis XV, tout le monde identifiait le héros vaincu par l'amour. La présence de la statue sur le chemin de la chapelle royale était inconvenante, alors que Louis vivait des amours adultérins avec Madame de Pompadour, et que croissait l'impopularité du roi mauvais Hercule. Hercule, c'est le roi. C'est un roi mauvais parce qu'on accusait Louis XV d'avoir fait une mauvaise paix. Il s'agit du traité d'Aix-la-Chapelle signé en 1748, qui certes mettait fin à la guerre de succession d'Autriche, mais le traité n'établissait pas une paix stable, et la guerre de Sept Ans apparaît comme une suite logique au conflit. Donc effectivement, c'est un mauvais traité, c'est un mauvais Hercule, en quelque sorte, impopulaire, qui entretient des relations adultérine avec Madame de Pompadour, imaginez à Versailles, sur le chemin qui conduisait à la chapelle royale, la statue de Bouchardon, enfin, tout le monde, effectivement, identifiait le héros vaincu par l'amour. C'était Louis XV. Mise en place en 1750 à Versailles, la statue déplaît au roi et à la cour par sa trivialité. On traite l'amour de portefaix. Il se suscite toutefois l'admiration de quelques amateurs et artistes, dont Madame de Pompadour, la favorite de Louis XV, qui d'ailleurs commande une copie pour le bosquet de l'amour à Bellevue On ne sait pas si la copie a finalement été exécutée. En 1752, cet amour est relégué à l'orangerie du château de Choisy-le-Roi. Donc on n'a pas compris, en ce milieu du XVIIIe siècle, l'œuvre novatrice de Bouchardon. Bouchardon est en avance sur son temps. D'abord par le style naturaliste qu'il impose et qui s'oppose aux tendances rocailles de l'époque. Ensuite par sa grande culture classique, et c'est peut-être comme cela que l'on retrouve l'idéalisation si physiquement, si le corps de cet amour est d'un naturalisme qui effectivement pouvait choquer en ce milieu du XVIIIe siècle et a choqué. Par contre, le sujet, le thème est tout à fait classique, correspond à la culture classique. Comprenez bien, l'Éros qui se taille un arc dans la massue d'Hercule est celui des néoplatoniciens. Il est donc ce Phanès, celui qui relève. Il est la seule force de l'univers capable de conduire l'âme immortelle vers sa patrie d'éternité. Sans Eros qui vainc tout, même la mort, Héraclès ne peut pas connaître l'apothéose. Donc l'idée de l'amour de Bouchardon sous le plafond de Lemoine, c'est celle d'un Hercule qui, abandonnant ses armes, est transporté par l'amour vers sa demeure céleste. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, justement. Alors en même temps, bon, quand on fait ce portrait de l'Éros Phanès, il faut regarder de plus près le Cupidon de Bouchardon. Donc voici un très beau document qui nous rapproche de l'Éros de Cupidon. Le visage, aux yeux vides, possède la beauté régulière du classicisme et de l'antiquité. Mais, loin de donner au dieu un physique idéalisé, on l'a dit, le sculpteur recherche la vérité d'un corps adolescent. À cet âge, l'âge ingrat de l'adolescence, la nature n'est pas entièrement formée, certaines parties du corps ont grandi plus vite que d'autres, il y a donc des dissymétries, et Bouchardon a conservé ses irrégularités anatomiques. Alors, oui, c'est un choix qu'a fait Bouchardon, c'est-à-dire, encore une fois, finalement, essayer de concilier l'antique, la beauté, la grâce, concilier le classicisme avec le vérisme, avec le naturalisme cru, pourrait-on dire. Bon, et c'est un choix qu'il faut expliquer. Donc ça va s'expliquer par le fait que dans tous les cas, Eros incarne la jeunesse éternelle, que l'Eros qui taille son arc dans la massue d'Hercule ne peut être qu'un Eros plus grand, un Eros adolescent. De plus, le choix que fait Bouchardon, c'est de montrer un Eros qui est à la fois divin et humain, mais en aucun cas vulgaire. L'idée d'un amour occupé à un travail manuel a donc été jugée ingénieuse et incongrue par Voltaire, et cela dès 1739. Plus tard, ça fâchera même Diderot. Donc l'œuvre était trop novatrice pour l'époque, on n'a pas compris cette nouvelle orientation que donnait Bouchardon. On a retenu finalement que ce côté un peu vulgaire du réalisme cru, donc de la nature telle qu'elle est finalement à l'âge de l'adolescent. Alors bon, donc laissons cela, donc on n'a pas compris l'œuvre, mais malgré tout, l'œuvre est devenue célèbre à force, hein, et il y a donc une postérité qui est tout à fait révélatrice et qui confirme une chose, que Bouchardon était en avance sur son temps. Alors je vous propose effectivement de voir la postérité de ce grand chef-d'œuvre de Bouchardon. D'abord, il faut remarquer qu'elle apparaît dans des dessins et peintures dont le portrait de Bouchardon, un morceau de réception de François-Hubert Drouet qui date de 1758 et que je vous montre, que vous avez sur la diapositive suivante dans ce chapitre consacré, disons, à la postérité de l'œuvre de Bouchardon. Donc, morceau de réception à l'Académie royale de peinture que présente le 25 novembre 1758 François Hubert Drouet. Et vous avez en arrière-plan, en effet, de ce très très beau tableau, vous avez en arrière-plan de ce portrait de Bouchardon, deux œuvres que vous avez automatiquement reconnues, et c'est pour ça que ça a beaucoup d'intérêt de montrer ce tableau. Donc c'est la statue équestre en bronze de Louis XV qui était place de la Concorde et détruite par les révolutionnaires, et devant la statue équestre, ce qui montre bien que très vite on a considéré cette œuvre comme étant le chef-d'œuvre de Bouchardon, l'amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule. Postérité toujours, imaginez que l'œuvre de Bouchardon est éditée en biscuit de Sèvres, et cela dès 1768, que 10 ans plus tard, la statue de Bouchardon, l'original, est transportée au musée du Louvre, dans la salle des antiques, afin d'être copié, notamment par Louis-Philippe Mouchy, pour le temple de l'amour à Trianon. C'est quand même très révélateur, ce changement d'opinion, cette évolution des mentalités, ce changement de goût, en un mot, hein, qui s'opère dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle. Le milieu du siècle était encore trop attaché à des formules rocailles, et ces formules ne comprennent pas la vraie nature des choses, en fait, hein, le rendu naturaliste, si vous préférez, des choses. Mais dans cette seconde moitié du XVIIIe siècle, la voie ouverte de Bouchardon est de mieux en mieux appréciée, ce que montre maintenant le pendant de l'amour de Bouchardon. Alors en effet, en 1783, un pendant est commandé à Augustin Pajou. Pajou est un très très grand sculpteur français. Donc il choisit, Pajou, une Psyché abandonnée que vous avez sur la diapositive suivante. L'œuvre est exposée au Louvre, c'est un très très grand chef-d'œuvre de la sculpture française. Lorsque Pajou présente le modèle en plâtre de cette sculpture au salon de 1785, hein, j'insiste, commandé en 1783, le modèle en plâtre est présenté au salon de 1785, aussitôt le rendu trop naturaliste de cette femme, aux formes épanouies, fait scandale, si bien que l'œuvre est retirée pour indécence. Intéressant. Donc c'est-à-dire effectivement que Pajou est allé plus loin dans cette voie tracée par Bouchardon, cette voie du naturalisme, de la réalité, disons, crue. Donc il va plus loin parce qu'il s'empare d'un corps de femme, nu, et qui, par ailleurs, propose des formes épanouies, mais réalistes. Donc c'est traité ou taxé d'indécence. Voyons cette œuvre de plus près, hein, le grand chef-d'œuvre de Pajou, Psyché, seule et désespérée, pleure la fuite de l'amour qu'elle a involontairement provoquée, malgré l'interdit du dieu, Cupidon donc. Elle a cherché à savoir qui était l'amant de ses nuits. Pendant son sommeil, elle approcha une lampe à huile. Émue par sa beauté, elle en laissa tomber une goutte. Cupidon s'éveilla et s'enfuit près d'elle. Un papillon symbolise l'âme, en grec psyché. La lampe et le couteau, dont elle s'était armée contre un éventuel monstre, puisqu'on lui avait dit qu'elle avait épousé le plus monstrueux des personnages. Bon. Donc, lampe et couteau gisent à terre dans le chef-d'œuvre de Pajou. La sculpture, je le redis, a été commandée en 1783, plus précisément par le comte d'Angivilliers, directeur des bâtiments du roi, pendant donc à l'amour de Bouchardon. Donc Pajou choisit le thème de Psyché qui est tiré d'un conte de l'écrivain latin Apulée, deuxième siècle de notre ère, et d'un poème de La Fontaine, le fabuliste français du XVIIe siècle. L'œuvre offrait à Pajou l'occasion d'égaler la gloire de son illustre prédécesseur. Quoique sur ce point, il faut quand même relativiser, puisqu'on a bien compris que la réception du chef-d'œuvre de Bouchardon a été plutôt mauvaise, enfin franchement effectivement critiquée. Donc, mais c'est un chef-d'œuvre, donc ça Pajou le sait, il est sculpteur Pajou, donc il sait effectivement que son prédécesseur Bouchardon avait laissé un grand chef-d'œuvre. Et parallèlement, ce que voulait Pajou, c'était aussi rivaliser avec son contemporain. Le contemporain de Pajou, c'est Houdon. dont le bronze de Diane Chasseresse venait d'être fondu en 1747. Il est conservé aujourd'hui à San Marino, en Californie. Mais je vous montre le marbre. Le bronze est un petit peu plus tardif. Le marbre est réalisé quelque temps avant le bronze, en 1780. Il y a un exemplaire de ce chef-d'œuvre de la Diane Chasseresse de Houdon au musée Calouste Gulbenkian à Lisbonne. Et là aussi, on est confronté à une œuvre emblématique du néoclassicisme qui opère bien finalement cette fusion magnifique entre le classicisme de l'Antiquité, l'idéalisation et la nature. On a sous les yeux le corps nu et vrai d'une femme qui joue le rôle ici de Diane. C'est un grand chef-d'œuvre qu'a laissé ici Houdon, et la psyché abandonnée de Pajou tente de rivaliser avec cette Diane Chasseresse de Houdon. Mais revenons à l'œuvre de Pajou. C'est le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois qui est choqué par la nudité intégrale de la psyché abandonnée de Pajou, si bien que le curé obtient son retrait du salon. L'œuvre est censurée. Les critiques blâment le rendu trop naturaliste du modèle. Donc on croirait ici les critiques à propos de l'œuvre de Bouchardon. L'attitude maniérée, l'expression outrée du visage de Psyché, comme Bouchardon, Pajou tente de concilier, je l'ai dit, l'idéal de l'Antique et de la Renaissance, avec la fidélité à un modèle naturel. C'est tout ça que l'on a ici dans cette œuvre-là. Donc on pourrait dire finalement que ceux qui l'ont critiqué ne sont pas des connaisseurs. Ceux qui apportent effectivement ces critiques virulentes ne savent pas ce qu'est l'idéal de l'Antiquité, ce qu'est la Renaissance et ce qu'est le modèle naturel, suivre l'observation naturaliste des choses, comme le recommandait en particulier Léonard de Vinci. En faire la fusion de tout ça, c'est proposer un style à part entière, fusionner l'idéal antique, le goût de la Renaissance et le naturalisme. C'est ce que font Bouchardon, c'est ce que font donc ces sculpteurs Bouchardon et Houdon. Les proportions ne doivent rien au canon antique, quand on découvre la psyché de Pajou, ou l'adolescent qui joue le rôle de l'amour chez Bouchardon. Comme le fait Christophe Gabriel Allegrain, dont vous avez à gauche sur cette diapositive la Vénus magnifique qu'il a réalisée en 1767, le sculpteur représente la beauté voluptueuse d'un corps féminin, mais un corps vrai. Selon les critiques, ces formes épanouies ne convenaient pas à la jeunesse de l'héroïne. Vous voyez qu'on fait les mêmes critiques à propos de l'adolescent qui jouait le rôle de l'amour de Bouchardon. Psyché n'aurait pas non plus la noble contenance antique. La pose est déclamatoire. Le fort contrapposto du corps, tête levée vers le ciel, geste du bras ramené sur la poitrine avec effusion, la lourde chevelure qui tombe en boucle sur le front, les tempes et les épaules renforcent l'expression d'extrême affliction du visage. Et ça n'a pas été compris. C'est-à-dire effectivement l'attitude de la psyché abandonnée et l'expression de son visage, l'affliction qui se lit sur son visage. Psyché vit sa douleur devant le spectateur, telle une héroïne de théâtre. Elle sollicite sa compassion et elle dévoile son corps de femme. On le voit d'ailleurs, maintenant on le comprend mieux, c'est en inscrivant des sentiments douloureux, affliction du visage, compassion, mais des sentiments élevés que l'artiste donne à son sujet une certaine noblesse. Celle-ci est d'autant plus sensible que le corps de Psyché est humain. C'est une façon de sublimer la réalité. C'est ce qui fait la force de la psyché abandonnée de Pajou, c'est ce qui fait la force, bien sûr, de l'amour de Bouchardon. Alors là-dessus, concluons. On va noter que si Bouchardon a exercé après sa mort, d'où cette partie consacrée à la postérité de son œuvre, et donc de l'amour qui se taille un arc dans la massue d'Hercule. Si son influence a été considérable après sa mort, Bouchardon n'a pas formé une école. Et ce n'est pas son élève, Vassé, mais bien Pigalle qu'il a indiqué lui-même comme son véritable successeur, ce qui permet de mieux comprendre la vie de Diderot sur Bouchardon quand il précise « c'est l'un des deux plus grands sculpteurs français du XVIIIe siècle, le premier étant Pigalle ». Pigalle, c'est le véritable successeur de Bouchardon, d'après Bouchardon lui-même, ce qui ne nous empêchera pas de découvrir une œuvre de Vassé, son élève, Vassé, dont vous avez l'œuvre sous les yeux, donc Louis-Claude Vassé, qui nous propose ici l'amour assis, rassemblant les colombes du char de Vénus. Et peut-être effectivement que l'œuvre de Vassé est trop idéalisée, trop antiquisante dans le sens de trop classique, et que l'on retombe ici dans la formule d'un amour qui n'a pas grand-chose à voir avec l'adolescent qu'il est censé incarner. Pour le dire autrement, manifestement Vassé est passé à côté du naturalisme, de la vérité naturaliste, et donc de l'observation scrupuleuse du corps de l'adolescent. Alors ça, c'est peut-être une autre voie qui s'ouvre dans ce néoclassicisme que va incarner d'une façon magnifique, bien sûr, Antonio Canova, donc c'est-à-dire un néoclassicisme qui est extrêmement épuré, extrêmement dépouillé, qui donc va laisser de côté justement ce souci du naturalisme cru, pourrait-on dire, qu'exprimait si bien Pajou, et puis bien sûr notre Bouchardon. Donc de Antonio Canova, vous connaissez tous L'amour et Psyché qu'est au Louvre, œuvre splendide, splendide, mais dans laquelle on ne retrouvera rien de ce qui a fait la force de l'amour de Bouchardon ou de la Psyché de Pajou. Et puis dans cette continuité, je vous montre aussi l'amour de Antoine Denis Chaudet, c'est-à-dire une œuvre, là aussi dans la continuité de Canova, davantage en tout cas dans cette continuité de Canova que dans la continuité de Bouchardon ou encore de Pajou. À ces œuvres néoclassiques, disons pourrait-on dire dures et radicales, à ces œuvres s'opposeront les œuvres romantiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée en vous remerciant.